Blanchet.
À 7h36, c'est l'heure de se tourner vers Yves-François Blanchet. Salut François.
Bien le bonjour, mon cher.
Toute une candidature au Parti libéral du Québec hier. J'ai moi-même souri en la voyant. Enrico Ciccone, l'ancien joueur de hockey qui va se présenter.
C'est mon imagination. Mais on avait entendu les premiers éléments de ça il y a quand même un petit moment. En fait, quand il avait indiqué qu'il n'allait pas continuer son travail assez de chroniqueur, ça avait commencé à circuler un peu. Bien sûr, hier, c'est devenu de plus en plus clair que... Mais tu sais, on recycle parfois les mêmes nouvelles, mais Enrico Ciccone s'en va au PLQ. Et moi, ça me démontre une chose coquine, c'est que la CAQ manque de comté.
Oh!
Oh!
Donc, tu penses
que... Un joueur de hockey, là, c'est habitué à négocier en différentes équipes pour savoir où est-ce que va être la meilleure place. Puis quand tu as joué avec les Canadiens, tu es habitué à perdre. Tu es habitué à avoir des enjeux linguistiques. Bon. Mais si vous appelez à la CAQ, on va vous dire qu'il a d'abord magasiné à la CAQ.
Ah oui, fait que
c'est sans aucune originalité. À chaque fois que quelqu'un s'en va dans un parti politique, s'il a eu le bonheur ou le malheur de parler à un autre ou l'autre, parce qu'il y a deux meneurs dans la course actuelle, on va vous dire qu'il est venu aussi. Mais ça se peut. Et moi, j'ai dit, êtes-vous sûr, là? Oui. Alors, ma formulation, c'est si vous appelez à la CAQ, on vous confirmera qu'il a d'abord magasiné de ce côté-là. Mais il aurait exigé un comté sûr.
Donc, M. Ciccone voulait certain d'être élu.
C'est ça. Mais là, un comté sûr, quand tu as 91 candidats de déjà désignés, comme c'est le cas à la CAQ, ça commence à être rare. Et la définition d'un comté sûr pour la CAQ, c'est pas la même chose que la définition d'un comté sûr pour le Parti libéral. La coalition Avenir Québec a des chances importantes dans pas mal de comtés.
Oui.
Ils peuvent espérer croiser les doigts, arrêter de faire des erreurs. Ils peuvent espérer plus de 60 sièges. Mais sur ces 60 sièges-là, les meilleurs comtés sont déjà désignés, attribués, que ce soit annoncé ou pas. Au Parti libéral, ils ont quelques comtés où ils n'ont même pas besoin de faire une bataille. Les comtés de l'Ouest de Montréal, quand tu es candidat, tu es député pour le Parti libéral, parce que ça se gagne avec des 80 puis des 85. On en parle presque tous les jours de tel comté ou de tel autre comté, qui est un coup sûr, sans faire une image de baseball dans le hockey. Là. C'est un coup sûr pour le Parti libéral dans ces comtés-là. Donc, il serait d'abord allé là. Et il faudrait demander à M. Ciccone s'il est à l'aise. Et là, je m'excuse. Faut pas que je ferme les yeux parce que l'image fait mal. L'image de M. Couillard, là, il veut savoir si il dit que la CAQ est assis sur la clôture.
Oui.
Bon. Assis entre deux chaises, ça va, là. Tu sais, je comprends. Mais assis sur la clôture, je ressens une douleur.
C'est pas confortable.
Imaginez. En matière de constitution, parce que, la coalition Avenir Québec n'est ni fédéraliste, ni souverainiste. Fait que là, peut-être que M. Ciccone a dit, moi, je veux pas être assis sur une clôture, mais je suis pas sûr que c'est ça son motif, puisqu'il voulait d'abord, bien sûr, aller à la CAQ. Et M. Couillard répète sans cesse ses accusations à l'effet que la coalition Avenir Québec, ce sont des crypto-séparatistes. Que dans le fond, M. Legault, une fois élu, va vouloir relancer l'idée d'un référendum parce que le gouvernement fédéral va refuser ses demandes qui sont déjà passablement diluées. Et là, la coalition Avenir Québec envoie son porte-parole en tout. Parce que Simon-Jolin Barrette est porte-parole dans tout.
Ouais.
Quand, par hasard, c'est vraiment son dossier, comme cette fois-ci, c'est un bonus, mais on peut sortir sur l'agriculture, sur la culture, sur les extraterrestres, ça risque d'être Simon-Jolin Barrette qui va aller répondre pour la CAQ.
Effectivement.
Et lui, il a dit, bien sûr, et à juste titre, que les accusations de M. Couillard, c'est des mensonges. Tu sais, M. Legault a été assez clair, en anglais, dans l'Ouest, jamais, never. La CAQ n'est pas un parti souverainiste. Les péquistes qui sont allés se réfugier à la CAQ peuvent mettre ça sous le boisseau. Ça reviendra pas dans un avenir prévisible à la coalition Avenir Québec. Ce que François Legault veut, c'est le pouvoir. Mais lorsque, comme Simon-Jolin Barrette l'a fait, il dit, écoutez, on va vous expliquer c'est de quoi notre posture de force par rapport à Ottawa, parce que tout le monde veut une posture de force par rapport à Ottawa, incluant les libéraux qui ont leur propre position constitutionnelle qui s'appelle... Québécois, c'est notre façon d'être Canadien. C'est ça. Ça, c'est les revendications qui sont dans la foulée traditionnelle du Parti libéral. Mais Simon-Jolin Barrette dit, on va avoir une position de force par rapport à Ottawa parce qu'on va avoir baissé la péréquation qu'on reçoit. Ça, là, tous les économistes vont dire, C'est extraordinairement long et lourd. Il faut que tu crées un écart important de croissance économique entre le Québec et, par exemple, l'Alberta sur une longue période pour être capable d'avoir un effet significatif sur la péréquation. Ça peut pas se faire de façon sensible à l'intérieur d'un mandat. Alors, retiens pas ton souffle, là, si c'est ça la stratégie de la coalition Avenir Québec face à Ottawa. Ça risque de pas super bien aller, mais ça ne les rendra pas souverainistes. En tout cas, je peux pas croire que ça rendrait la coalition Avenir Québec souverainiste. Donc, monsieur Couillard essaie simplement de ramener des épouvantails qui ont très bien marché contre le Parti québécois, qui était vraiment souverainiste en 2014. Et ceux qui disent que l'axe de la Constitution dans les élections québécoises, c'est fini, ben, ils vont devoir se raviser parce que ça va encore être un enjeu dans l'élection qui s'en vient.
Une carte qui plaît bien aux libéraux de Philippe Couillard. On passe au Parti québécois. Tu notes un effet Véronique Yvon?
Oui, en fait, je me suis demandé depuis un bon moment, je me posais la question. Quand Jean-François Lisée a convaincu Véronique Yvon d'être sa vice-chef, sa colistière un peu à l'américaine et qu'on la verrait presque autant que lui, puis le petit camion cet été et tout, et tout, et tout, on se disait que c'était un gros pari pour Véronique Yvon. Elle est une des personnalités politiques les plus populaires au Québec, tout parti confondu. Elle prenait cette popularité-là, elle la mettait dans la balance pour essayer de relancer les chiffres du Parti québécois qui étaient vraiment pas bien bons. Mais si ça marchait pas, elle perdait beaucoup de son propre prestige et elle perdait beaucoup de sa position avantageuse pour, le cas échéant, prendre le relève de Jean-François Lisée après la prochaine élection. Or, les chiffres, ils ont pas monté. Ils ont continué à descendre dans les sondages. Donc, il n'y a pas d'effet Yvon dans l'opinion publique qui se traduisent par des intentions de vote mesurées par les sondages. Mais je me disais que Véronique Yvon pouvait avoir joué un autre rôle important pour le Parti québécois et j'ai essayé de le mesurer, c'est pas facile. Elle a joué un rôle important dans le recrutement de candidats, en particulier de candidates. Et ce qui me mettait la puce à l'oreille pas mal, c'est que j'entendais souvent dans des circonscriptions, on a trouvé quelqu'un comme candidat, mais Véronique Yvon a trouvé une femme. Ou on va nous refuser notre investiture si le candidat qu'on a choisi n'est pas une femme. Et ça, ça revenait souvent. Donc, on voyait bien que Véronique Yvon était très impliquée dans le recrutement de candidats. Et ça, ça sert à plusieurs affaires. Ça sert, bien sûr, à avoir plus de femmes comme candidates pour le Parti québécois. Mais lorsque c'est toi qui as poussé quelqu'un à devenir candidat, le lendemain de l'élection, tout ce beau monde-là, c'est tes amis. Et donc, à l'intérieur du Parti québécois, Véronique Yvon est en train de se renforcer un réseau probablement très solide qui va profiter du fait que Pierre-Carl Péladeau a bien d'autres chats à fouetter à l'heure actuelle que de s'imaginer de nouveau chef du Parti québécois. Et là, j'ai été vérifier ça. Sur Facebook, on a pris tous les candidats et tous les députés du Parti québécois qui ont une page Facebook et on a vérifié lesquels ont des photos avec le chef et lesquels ont des photos avec Véronique Yvon.
Okay.
Supposant qu'il y aurait peut-être une disproportion en faveur de Mme Yvon parce qu'elle est considérée comme une meilleure locomotive pour aller chercher des votes et des soutiens que le chef. Ça n'a pas donné un résultat qui a l'air hyper concluant. En fait, 72% des 43 qu'on a pu trouver ont une photo avec M. Lisée. On exclut les photos de groupe. Et 44% avec Mme Yvon. Tu vas dire, ah ben c'est bien plus M. Lisée. Oui, c'est normal. C'est le chef et il fait le tour. Mais pour une députée qui n'est pas chef, aussi vice-chef soit-elle, c'est beaucoup que près de la moitié aient voulu avoir leur photo avec Véronique Yvon. Et ça démontre, sans être scientifique, qu'elle a effectivement un ascendant important et qu'après la prochaine élection, à moins que Jean-François Lisée ne sauve le statut d'opposition officielle du Parti québécois, retiens pas ton souffle non plus.
Non.
Les chiffres suggèrent pas ça pantoute, pantoute, pantoute. Mais elle sera dans une excellente posture à l'intérieur du parti et peut-être à l'extérieur, avec un problème, c'est qu'il faut qu'elle garde son propre comté. Parce qu'imagine, avec les nouvelles lois, si tu perds ton comté, tu deviens chef, il y a personne qui va vouloir renoncer à son allocation de transition pour te donner son comté. Avant, c'est tu t'en vas faire d'autres choses, puis tu prends ton allocation, puis le chef élu qui n'a pas de siège prend ton comté, s'en va en élection partielle, puis gagne, puis c'est toujours un bon comté pour ton propre parti. Mais là, la personne qui s'en irait, c'est quelqu'un qui est élu depuis 6 ans. Il va laisser 45, 55, 60 000 piastres sur le coin de la table pour donner son comté à un nouveau chef. Pas sûr. Et une des hypothèses, c'est ce que se passe-t-il si M. Lisée gagne son comté et décide de s'en aller, à moins d'être chef de l'opposition. Là, ça reste toujours possible.
Exact.
Là, à ce moment-là, il y a un comté qui est vide, mais le comté de M. Lisée n'est pas encore gagné pour le Parti québécois.
Et tu veux nous rappeler l'existence de Jean-Martin Hossan?
Mais Jean-Martin Hossan a voulu nous rappeler sa propre existence et il l'a fait d'une façon assez habile et très liée à ce qu'il est. Lui, il est en politique pour la souveraineté. Et il se tanne qu'on parle juste de tactique, de date, du nombre de mots en question et qu'on ne parle pas des moyens de la souveraineté. Et donc, Jean-Martin Hansan a fait une lettre ouverte qui était publiée hier dans plusieurs grands médias où il dit, écoutez, là, indépendamment de la manière, vous pouvez pas dire que ce n'est plus un enjeu parce que la relation entre Québec et Ottawa a joué un rôle important dans des décisions qui ne servent pas nécessairement le Québec. Il donne un exemple, le prix de l'essence. Toute la politique sur le cannabis qui a été rentrée dans la gorge de Québec. Les politiques sur les paradis fiscaux où Québec veut intervenir, mais c'est essentiellement une juridiction fédérale. Québec n'est pas capable. L'oléoduc sur les enjeux territoriaux où Ottawa prétend qu'il est capable de forcer un oléoduc sur le territoire d'une province. Alors, il y a un enjeu territorial, encore une fois, Québec-Ottawa. Les négociations de l'ALENA qui sont faites exclusivement par Ottawa avec quelqu'un qui sautille pour le Québec à côté, aussi compétent soit M. Bachand, il ne parle pas directement avec les négociateurs américains. Bref, Jean-Martin Hansan fait ça. Et ça souligne une autre affaire, c'est que il est dans un comté dangereux, un comté qui est très souverainiste, Pointe-aux-Trembles, comté de la famille Léger, mais un comté où il a un adversaire quand même très controversé, à la limite sulfureuse, mais de la coalition Avenir Québec, en la mairesse de l'arrondissement, Mme Rouleau. Et on dit que la campagne de M. Hansan est un petit peu en retard, que les choses bougent pas aussi vite qu'elles devraient bouger. C'est pas mieux de l'autre côté parce que, et ça c'est un problème viscéral de la coalition Avenir Québec dans beaucoup de régions au Québec, tu peux pas avoir vendu ton parti politique en disant les politiciens c'est tous des pourris, venez militer pour des politiciens.
Ouais,
c'est un peu dur.
Un petit peu paradoxal.
Ils ont un peu de difficulté à monter des organisations dans un certain nombre d'endroits. Donc, Jean-Martin Hansan veut du temps de glace, il veut être sur le terrain, il veut parler d'indépendance, il ne peut pas bousculer son chef le moindrement parce que sinon on se rappellerait de son départ fracassant en 2010, si ma mémoire est exacte. Donc ça lui ferait probablement très mal. Alors l'héritier de Jacques Parizeau ne veut pas rester en touche. Il faut qu'il soit à la fois sur le terrain, il veut être visible national, il veut parler de souveraineté, il veut se positionner pour l'avenir. Ce document-là a au moins la vertu de replacer le débat. Qu'on soit d'accord ou pas, là, on peut dire on veut que tout reste de même, mais au moins il a la vertu de replacer le débat sur le fond des choses. Pourquoi ou pourquoi pas la souveraineté?
Merci beaucoup, Yves-François.
Un grand plaisir, mon cher.
À demain matin.
À demain.
Il est 7h48.